DW. Économie et développement. La francophonie économique. Un mot, une organisation, mais derrière, une réalité encore en construction. Peut-on parler d'un véritable espace économique francophone? C'est à cette question que tente de répondre la 6e édition des missions économiques de la francophonie, organisée par l'OIF à Cotonou, en présence d'entrepreneurs, d'investisseurs et de décideurs venus de tous les continents. Et puis, sortir de l'enclavement pour relancer l'économie, tel est le pari de la République centrafricaine qui place désormais ses routes au cœur de sa souveraineté économique. Reportage à suivre en seconde partie de ce magazine. Économie et développement, c'est Rodrigue Guézodia au micro. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis 2021, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, multiplie ses missions économiques pour stimuler les échanges entre entreprises francophones. Mais au-delà des intentions, quels résultats concrets? Quels partenariats émergent? Et surtout, comment cette initiative peut-elle renforcer les économies africaines francophones entre elles? Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation.
Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs acteurs économiques, en fait, de la même région ne se connaissent pas. Et nous avons été très positivement surprise de voir que, surtout sur le continent africain, ces missions économiques deviennent des moments d'introduction et d'échange entre acteurs économiques qui sont parfois de pays voisins, mais qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer.
Ce constat soulève un paradoxe. Des pays partagent la même langue, les mêmes institutions, parfois les mêmes défis, mais très peu de commerce entre eux. La francophonie économique veut combler ce vide en créant des ponts, non plus seulement culturels, mais commerciaux et productifs. Depuis son lancement, la mission économique de la francophonie a facilité des rencontres ayant généré plus de 16 millions de dollars de contrats commerciaux, notamment dans l'agro-industrie, le numérique et les énergies vertes. Et lors de cette 6e édition, plusieurs accords ont été signés entre des entreprises africaines et des partenaires internationaux, comme l'explique Louise Mushikiwabo.
À Cotonou, nous avons une signature de contrat pour un montant de plus ou moins 30 millions d'euros entre une entreprise belge et une entreprise béninoise. Nous avons deux autres contrats qui seront signés dans le domaine de l'énergie renouvelable et dans l'agro-industrie.
Ces chiffres restent modestes à l'échelle globale, mais ils révèlent une tendance. La francophonie économique devient un terrain de prospection concret pour les PME africaines. Pour l'économiste Lionel Zinsou, cette stratégie ne peut fonctionner que si l'espace francophone passe du culturel à l'économique.
Il se trouve que les lusophones sont beaucoup plus solidaires entre eux. Vous voyez le Brésil partout. Vous voyez les anglo-saxons très solidaires. Et c'est vrai que les francophones n'étaient pas les plus solidaires. Et donc, c'est de dépasser le rôle linguistique et culturel, même si la culture peut créer beaucoup d'emplois, parce qu'il y a de plus en plus de consommation culturelle dans le continent et de plus en plus de production culturelle. Enfin, dépasser le linguistique et rentrer vraiment dans l'économique.
Et cette solidarité suppose aussi de renforcer les liens sud-sud. Car ce sont bien les PME africaines qui pour l'instant profitent le moins de la mondialisation, faute d'alliances, d'accompagnement, de financement.
Certaines des entreprises qui participent à nos missions économiques sont des entreprises qui sont au tout début, des start-up. C'est aussi des entreprises qui restent très modestes en termes de chiffre d'affaires. Nous avons eu, par exemple, au Vietnam, des entreprises ivoiriennes et burkinabées, je pense, qui ont signé des contrats dans l'achat d'équipements dans le domaine agricole pour des montants un petit peu au-dessus de 2 millions.
Ces exemples montrent que les PME africaines ont un potentiel d'internationalisation, mais souvent manque de visibilité, de structuration et d'accès au crédit. Ce que regrette Louise Mushikiwabo.
Nous le voyons par exemple avec les femmes qui bénéficient du fonds La Francophonie avec elles, un fonds qui vient en soutien aux femmes en situation économique difficile. C'est aussi la manière de présenter des documents pour des projets bancables. Il y a aussi le fait que les financements vont souvent sur des domaines bien précis. C'est-à-dire que nos entreprises aussi devraient aller dans les domaines où il y a beaucoup plus de financement. Et donc, nous, en tant qu'organisation, au-delà des missions économiques, nous favorisons des échanges entre entreprises et pays.
Ce travail d'accompagnement est essentiel, car sans mécanisme efficace de financement, les meilleures intentions de coopération resteront lettre morte. Autre enjeu, la diversification des partenaires. Aujourd'hui, des pays comme le Vietnam, le Cambodge ou le Liban s'imposent aux yeux de Lionel Zinsou comme de nouveaux interlocuteurs pour les économies africaines francophones.
Le Vietnam est devenu un partenaire assez important en matière d'agro-industrie par exemple, en matière de télécom, en matière d'énergie. Donc, est-ce qu'on peut renforcer cette coopération ? La réponse est oui, et notamment dans les nouvelles industries, les nouvelles activités tertiaires. Parce que si vous prenez l'intelligence artificielle, si vous prenez le numérique, tout ce qui est lié à la recherche, tout ce qui est lié à la connaissance, le fait d'avoir la même langue, c'est une chose utile. D'autre part, vous avez dans les contrats que vous passez entre les entreprises un grand avantage à penser avec les mêmes concepts dans la même langue.
Le succès de la francophonie économique ne sera pas seulement une affaire de grands sommets ou de promesses diplomatiques. Il reposera sur la force des réseaux d'entreprises, la qualité des projets et la capacité des pays du Sud à soutenir leurs champions économiques. On passe à la seconde partie de ce magazine. DW. Pour sortir de son enclavement historique, la République centrafricaine mise sur le développement de ses infrastructures routières. Routes nationales et pistes rurales sont au cœur d'une stratégie destinée à désenclaver le pays, le relier à ses voisins, Congo-Brazzaville, Cameroun, Ouganda, mais aussi stimuler son économie intérieure. Cela implique toutefois des investissements massifs dans ce qui est devenu une priorité nationale. Le reportage de Jean-Fernand Quénon, notre correspondant à Bangui.
Économiquement handicapée par son isolement géographique, la Centrafrique concentre ses efforts sur l'amélioration de ses corridors routiers. Le pays s'attaque ainsi à l'une des causes structurelles de sa fragilité économique. Grâce au financement de la Banque africaine de développement BAAD, les travaux du corridor 13 reliant le Congo-Brazzaville au Tchad via la Centrafrique ont démarré. À Mongumba, les populations assistent avec espoir à cette transformation. Antoine est un habitant de Mongumba.
C'est une grande joie pour moi de voir les engins, les techniciens chinois, leurs machines et leurs bases vie installées ici chez nous. Ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien une réalité. Mes parents et moi avons même reçu une indemnisation, preuve que les travaux vont effectivement passer par ici.
Dans la capitale Bangui également, certains axes routiers sont réhabilités en enrobés. Un soulagement pour les usagers comme Wilfried, motocycliste qui appelle toutefois à une accélération du chantier.
Ça améliore un peu la circulation parce qu'il y avait beaucoup de trous et les bitumages qui se faisaient avant ne duraient pas. Ça s'est dégradé juste quelques mois après. Et puis aussi la durée des travaux, elle est trop lente. Donc on aimerait que ça avance un peu plus vite. Ça peut éviter beaucoup de cas d'accident.
Mais les Centrafricains veulent plus que des annonces. La qualité des travaux reste au cœur des préoccupations. Les citoyens s'organisent pour un suivi rigoureux. Christian Emeindota, journaliste engagé pour la bonne gouvernance, tire la sonnette d'alarme.
Vous prenez l'avenue Conjugo, on met les espèces de goudron. Même pas deux mois après, une pluie qui passe, tout s'érode. Et vous avez des trous qui sont éparse par-ci, par-là. Donc, je pense qu'il doit y avoir un suivi dans le travail qui se fait. Il y a certaines entreprises qui font très, très mal ces travaux, que ce soit au niveau de la canalisation, et que ce soit au niveau du revêtement en tant que tel. Est-ce que ces entreprises ont la qualité pour le travail exact de l'ONEMS, l'Office national de matériel, ou ils sont obligés de faire appel soit aux Chinois, parce que lorsqu'on voit les Chinois, par exemple au niveau du PK0, en train d'aider à faire l'enrobé, vous voyez la différence qui se fait ailleurs.
Pour renforcer les capacités techniques de l'ONM, le gouvernement a investi près de 2 milliards de francs CFA dans l'acquisition de nouveaux équipements au PK24, en sortie nord de Bangui. Un site de production moderne est désormais opérationnel. Il fournit les matériaux nécessaires aux techniciens sur le terrain. Mathias Mano, directeur de l'ONM.
La qualité y est. La construction d'une goutte, ce n'est pas seulement la couche de roulement que vous voyez, mais il y a toute une structure portante qui est déjà faite.
Au-delà des infrastructures autour de Bangui, le pays mise sur la coopération régionale pour briser son isolement, notamment à l'Est. À travers un partenariat avec l'Ouganda, la Centrafrique cherche à réactiver l'économie dans les zones longtemps marginalisées. Mais ces chantiers ambitieux ne suffisent pas encore à combler le retard infrastructurel. Seuls 3% des quelques 26 000 km de routes en Centrafrique sont bitumées. Le gouvernement compte sur les partenaires techniques et financiers pour combler le déficit. Parmi eux, la Banque mondiale s'engage à faire du secteur routier un pilier de son programme d'appui. Guido Rwangwa, représentant résident de la Banque mondiale en Centrafrique.
Dans le PND, les infrastructures occupent une place prépondérante, notamment les infrastructures routières. Donc le transport va encore être un objectif primordial pour la Banque mondiale à RCA pour au moins les 5 prochaines années.
D'ici là, la Centrafrique devra renforcer la gouvernance de son fonds routier, améliorer le contrôle de tonnage des véhicules et fluidifier les échanges intérieurs comme extérieurs, une voie indispensable vers la stabilité et la relance économique. Jean-Fernand Kouina, à Bangui pour la Deutsche Welle.
Merci Jean-Fernand Kouina. Et c'est avec ce reportage que se termine ce numéro d'Économie et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez d'ailleurs le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.